France Musique.
Musique et moi.
Rebecca Zlotowski.
Elsa Boublil.
Rien ne m'est dû.
C'est sur cet extrait du Children's Corner, Docteur Gradus ad Parnassum, qui veut dire la montée au Mont Parnasse, de Claude Debussy, interprété par Alain Planès, que nous vous accueillons Rebecca Zlotowski, scénariste, réalisatrice de Belle Épine, Grand Central, Planétarium et plus récemment Une fille facile. Vous venez de vous faire remettre le prix de la meilleure série française pour Les Sauvages, diffusée à l'automne dernier sur Canal+. Porte-parole du collectif paritaire 50-50, vous vous êtes vite engagé dans la lutte contre les abus de pouvoir sur les plateaux et dans l'industrie du cinéma, artiste engagé donc. Votre mot d'ordre, votre mantra est donc « rien ne m'est dû ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Bonjour déjà.
Bonjour. Alors le Parnassum, Alain Planoum, c'est Alain Planès qui joue Debussy, c'est quand même... J'ai eu la chance de l'écouter. Dans un cercle privé, ça fait tout de suite Verdurin quand c'est dit comme ça, mais c'était un dîner chez des amis en commun, et à un moment il est passé au piano pour jouer, je crois, Jardin sous la pluie.
Oh là là.
Bon, voilà, ça peut faire rêver quelques auditeurs.
Et là, vous l'avez reconnu en l'écoutant, parce que vous aimez bien Debussy, je crois.
J'adore Debussy, mais je connais pas suffisamment, je mentirais si je m'estimais suffisamment spécialiste pour reconnaître les interprétations des uns des autres, même si je sais quand j'aime et quand je n'aime pas. J'ai des goûts et des dégoûts forts, mais pas suffisamment de science pour savoir. Alors après, rien ne m'est dû. J'y pense pas tous les matins en me réveillant, mais parce que quand on me demande si j'ai une devise, c'est plutôt celle-ci, parce que je crois que j'ai été élevée avec l'idée qu'il fallait travailler, mériter, et que personne ne nous attendait nulle part. Et ce qui est plutôt décontractant aussi. Il n'y a pas qu'une partie pénible et
laborieuse.
Et laborieuse à ça, il y a aussi une partie relaxante, c'est qu'on n'a pas d'héritage de nos pères, ni PERS, ni PERS. Et qu'au fond, on nous attend nulle part, quoi.
Donc on peut tracer sa route.
On peut tracer sa route.
On va pouvoir en parler, hein. C'est plutôt tardivement que vous en êtes venu au cinéma. D'ailleurs, au départ, vous vous destiniez à être scénariste, me semble-t-il.
Au départ, même à l'enseignement.
Ah oui.
En vrai, j'avais une carrière universitaire toute tracée au départ. Et puis, elle était désirable pour moi, mais incomplète, parce que j'aimais le cinéma. Et je me disais, donc j'ai fait un parcours de soldat de l'école de la République, qui m'a beaucoup plu. Et ensuite, quand il a été question d'enseigner, j'ai eu l'impression de revenir au lycée alors que je l'avais quitté un an et demi avant. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est une tautologie. Je vais pas pouvoir faire ça toute ma vie. Et puis, je me suis spécialisée dans le scénario. Enfin, j'ai essayé de trouver des parades, des sorties, d'être étudiante un peu longtemps. Puis ensuite, finalement, le cinéma m'a rattrapée.
La musique compte dans votre vie, Rebecca Zlotowski. Rob est un compositeur qui revient régulièrement avec vous, auprès de vous même, dans vos compositions, on pourrait dire, dans vos réalisations en tout cas. On va pouvoir parler de vos goûts pour la musique, en tout cas un goût fortement prononcé et qui date visiblement de l'enfance. Rebecca Zlotowski est l'invitée de Musique et moi sur France Musique jusqu'à midi et demi. L'acte 1 de Carmen de Bizet avec la garde montante, le chœur des enfants, interprété par la maîtrise de Radio France et l'Orchestre National de France sous la direction de Seiji Ozawa. Alors évidemment, on est en plein cœur de l'enfance, on le chanterait presque, on y était presque là, Rebecca Zlotowski.
Alors j'avais oublié, oui bah bien sûr, j'avais oublié que c'était interprété par des enfants, mais je l'associe à un souvenir d'enfance très présent parce que c'était, vous vous souvenez du je pense un clairon au début qui sonne militairement la reine de la garde. Voilà, et c'était ce que mon père nous passait, ma sœur et moi, le dimanche matin pour nous réveiller très fort chez nous. Donc, voilà.
C'est-à-dire il y avait une heure où il fallait se réveiller.
Oui, je pense entre 10h et 12h, je pense que sa patience arrivait à terme. Et bon, c'est pas des conditions difficiles d'enfance, parce que j'ai eu la chance de pouvoir être réveillée les dimanches par un chef-d'œuvre comme Carmen de Bizet, et on l'écoutait. Voilà, le disque, le CD à l'époque courait pendant toute la matinée. Il y avait un souvenir de ménage, d'odeur de cire sur le parquet, parce que je pense que chez les hommes qui élèvent seuls leurs enfants, il y a soit des très 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 grands maniaques de la propreté, soit des syndromes de Diogène. Mon père appartenait plutôt au maniaque de la propreté, donc on cirait tout, et sur fond de Carmen de Bizet.
On le salue, hein, Michel Zlotowski, qui connaît bien cette maison, qui est beaucoup
venu... Il la connaît un peu,
ouais, il la connaît très bien, la maison de Radio France, qui est traducteur, qui est beaucoup venu, en tout cas, à traduire des invités que j'ai pu recevoir sur France Inter. Et donc, vous en avez parlé, on va pouvoir en reparler, mais il vous a élevé seul. Vous avez
alors, grandi... seul, non, seul, seul, pas tout à fait, mais c'est vrai qu'on a été orpheline assez tôt avec ma sœur. On avait, elle, 13 ans et moi, 11. Et si bien qu'il nous a, voilà, il a été un père qui a élevé deux filles. Donc maintenant, j'ai décidé de parler de lui tout de suite dans les émissions en attendant.
Quand vous êtes invité à Radio France.
Ah oui, avant d'attendre qu'on m'en parle, puisque je vois bien qu'il marque les. Donc voilà, je le salue évidemment, et c'est un interprète de haut vol.
Ouais, c'est vrai.
Simultané.
Carmen, donc pour en revenir à l'œuvre, se faire réveiller, vous dites, par le clairon, et écouter l'œuvre, ça laisse quoi? Ça laisse un souvenir lumineux de ces dimanches qui sentent la cire.
Ça laisse un souvenir, je sais pas, ça ouvre, ça, oui, ça met de la lumière dans le cerveau et ça ouvre les cœurs et ça ouvre à des mondes musicaux auxquels j'aurais jamais eu accès, je pense, seule.
Régine Crespin avec l'Orchestre de la Suisse romande sous la direction d'Ernest Ansermet interprète cette Villanelle des Nuits d'été de Berlioz. On savourait, Rebecca Zlotowski, ensemble, cette langue qui est chantée, cette mélodie française avec des paroles donc de Théophile Gautier. Ça aussi, c'est l'enfance.
Alors, bah, c'est, évidemment, si on a le souvenir, c'était beau les césures, les
enjambements.
Les enjambements sont démentiels parce qu'ils inventent une autre phrase, en fait, une autre manière de mettre l'accent tonique de la phrase sur la phrase des bois.
Où, nous irons cueillir des fraises, des bois.
Et voilà, et puis dis-moi de ta voix si douce, toujours. Et donc ça, c'est vraiment une langue profondément poétique qui s'assoit évidemment sur un genre très spécifique littéraire qui est pas forcément là le plus visible dans Villanelle, mais dans La Dame de cœur ou dans des Poulenques, il y a quelque chose de profondément mystérieux, énigmatique, inquiétant, obsédant, un peu fantasmé, assez érotique aussi, qui je pense était perceptible pour la petite fille que j'étais. Alors là, évidemment, je parle de goûts parentaux, c'était à nouveau le goût de mon père qui aimait la voix de Régine Crespin, mais j'avais le droit de choisir dans cette époque ancestrale pré-internet. J'avais l'Encyclopédia Universalis à la maison et des disques. Et donc on choisissait, nous, dans les disques, ceux qui nous intéressaient. Si bien que c'est en même temps, c'est la rencontre des goûts de notre capital culturel, on va dire, pour parler comme Bourdieu, et des miens. Et je choisissais Régine Crespin. Et je crois que sa voix, le lead, le fait que ce soit en français, des paroles que je pouvais comprendre vaguement, une sorte de pré-opéra, mais qui n'était pas de l'opérette, rendait accessible cette langue noble.
Et vous le dites souvent, vos deux parents ne sont pas nés en France. Justement, le rapport à la langue française, votre père, je crois que sa langue maternelle, c'est le yiddish.
Oui.
Et votre mère, sans doute le français, mais elle a grandi au Maroc.
Oui.
Donc ce rapport à cette langue, ça faisait sens chez vous ?
Bah alors, c'est drôle ce que j'ai réalisé très très tard, parce que bon, on n'est pas forcément bien placé pour s'auto-analyser, surtout quand on fait pas d'analyse. Mais il se trouve que ma mère était quand même enseignante en espagnol, traductrice de l'espagnol, et mon père est interprète. Donc bon, je sais que ça paraît comme le nez au milieu de la figure, mais voilà, c'est banal. Je m'en suis rendu compte il y a 2 mois et demi. Je vois bien que ma richesse, mon trésor, c'est les mots. Mmh. Je viens du scénario, j'étais enseignante, j'étais agrégée de lettres modernes, j'étais vraiment du côté de la langue et de la langue française. On a un attachement très fort dans ma famille à la langue, qui crée plus notre identité que tout, c'est vrai. Mais la musique avait une part très importante parce que c'était un grand complexe familial de pas avoir pu en faire.
Duetto Buffo di Due Gatti, le duo bouffon, voilà, de chats, pour soprano et mezzo, soprano et piano. C'est Felicity Lott, Anne Murray et Graham Johnson qui l'interprétaient. Et le compositeur, bien sûr, c'est Rossini. Pour une amatrice de langue, c'était bien sûr la boutade. Mais je me suis dit peut-être que c'est le dialogue de deux sœurs, parce que vous dites avoir grandi avec votre sœur.
Mais on dirait qu'on a préparé cette émission, alors que là, je vous assure, chers auditeurs, elle ne savait pas que c'était effectivement un duo que j'avais chanté, joué avec ma sœur.
Oui,
ah, bon, en fait, voilà. J'allais vous dire, déjà, moi, alors, je fais un clin d'œil à Valeria Bruni Tedeschi, dont le dernier film, Les Estivants, m'a beaucoup, beaucoup plu et qui m'a rappelé ce duo parce qu'il y est produit dans son dernier film. Et c'est pas un morceau qu'on peut écouter, c'est un morceau qu'on joue, qu'on performe, parce que c'est bouffon, c'est amusant de le faire, voilà, quand on veut faire un petit spectacle, une petite représentation dans le cadre familial. Et c'est vrai que, donc voilà, là, je viens d'évoquer, d'abord, je trouve que c'est très intime de parler de musique, en fait. Parce que ça nous rappelle, on est un peu au bord des larmes à chaque fois, parce que ça nous rappelle vraiment des moments très familiaux, très intimes. Mais c'est vrai que, après avoir été réveillée à 10h du matin par mon père les dimanches dans une enfance difficile, mon goût me porte principalement vers les répertoires de piano. Parce que ma sœur est pianiste. Alors, elle est pas pianiste de métier maintenant, mais je pense qu'elle aurait complètement pu épouser cette carrière. Parce qu'elle était très, très douée. Ah au oui. piano. On était, ma sœur et moi, élèves au conservatoire municipal de notre arrondissement, dans le 13e, ouais. qui était dirigé par quelqu'un d'inoubliable, qui s'appelait, je crois qu'il est mort, Monsieur Chiortino. Je me souviens encore de sa fille Inès et de sa petite fille Jade, qui jouait du violoncelle comme moi. Donc je sais pas s'ils sont encore quelque part.
Mais ils ont compté.
Ils ont énormément compté. C'était une maison pour nous, ma sœur et moi. On allait une fois par jour au conservatoire.
Une fois par jour.
Quasiment. De toute façon, on faisait tout ce qui était gratuit et de la mairie de Paris, et tout ce qui était possible, on le faisait.
Et vive l'éducation accessible, hein, la culture accessible.
Ben oui, enfin moi, on lui doit beaucoup. Les colos de la mairie de Paris, les, je sais pas, je pense qu'on a dû profiter de tout ce qui était possible dans notre quartier. Et y compris les cours, la chorale, le solfège, la danse, où j'excellais pas du tout. Tout ça dans ce conservatoire municipal où on passait des heures. On avait un cours par jour avec ma sœur Yael.
Et le violoncelle?
Ben j'en ai joué de mes 6 ans à mes 19-20 ans.
Ah oui, quand même.
Ah oui, mais alors, je m'en suis pas vantée, oui, parce que je pense pas que je jouais très bien, mais j'en ai joué longtemps.
Et vous avez arrêté parce que c'était pas...
C'était pas compatible avec des études supérieures, donc il fallait un moment décider d'en faire son métier ou de faire autre chose.
Journée internationale des droits des femmes sur France Musique.
C'est pour ça aussi, je crois, Rebecca Zlotowski, que le violoncelle est présent comme ça. On va pouvoir en parler, mais vous évoquiez tout à l'heure Gabrielle Fauré. Mm-hmm. Gabrielle Fauré fait partie de ces compositeurs qui ont traversé cette période de votre vie.
Alors, pour le violoncelle, ouais. Oui, alors, ça le traverse doublement parce que je pense que j'ai une prédisposition à l'époque romantique,
ouais.
au sens voilà, plein du terme. Mais donc, il y avait, dans le répertoire que jouait ma sœur Yael, il y avait énormément de Debussy, de Poulenc et de Chopin. Enfin, disons que c'était vraiment un siècle qu'on traversait à la maison, que j'entendais tout ce qui était un répertoire de pianiste et ce qui pouvait se jouer entre un piano et un violoncelle, dont l'Élégie de Fauré.
Vous l'avez joué?
Oui.
Thank you.
Brigitte Engerer et Henri de Marquette interprètent l'élégie en ut mineur opus 24 de Gabriel Fauré. Vous le disiez, Rebecca Zlotowski, c'est une œuvre que vous avez jouée.
Ben oui.
Avec votre sœur.
Grâce à ma sœur, je dirais même avec l'aide de ma sœur qui m'accompagnait donc au piano. On révisait les examens de fin d'année, quoi, de ces classes de conservatoire que je prenais au sérieux deux semaines avant l'examen. Et si bien que ma sœur cravachait, m'aidait, qui était plus disciplinée que moi et plus brillante, tout simplement, plus musicienne, elle m'aidait à répéter. Donc je me souviens vraiment avoir répété l'élégie de Fauré, avoir les doigts qui saignaient un petit peu sur ce violoncelle que m'avait prêté une amie de ma mère, Michel Chanton, Michel Giudicelli. Et puis, est-ce que, si vous me permettez, j'ai aussi un souvenir là qui me hante, j'arrive encore à dormir, mais je trouve que c'est le moment d'en parler. J'avais une professeure de violoncelle au conservatoire du 13e qui était formidable et à qui je n'ai jamais non seulement dit merci, mais en plus je crois que j'étais vraiment une élève odieuse pour elle. Je sais pas pourquoi, je crois qu'elle avait même voulu me virer de sa classe à juste titre parce que je devais arriver en retard tout le temps, prendre sa part sur la jambe. J'avais pas compris que pour les enseignants au conservatoire, c'était un cadeau qu'ils nous faisaient. C'est des enseignants qui étaient des solistes, des concertistes de talent, et puis qui prenaient peut-être une après-midi par semaine pour faire un peu de, pas de social, j'allais dire, mais donner des cours, transmettre de transmission. Et elle s'appelle Isabelle Verrier. Je pense qu'on s'est jamais ni revu, ni réécrit depuis maintenant 25 ans, 20 ans. Et elle avait dû être, faire une croix sur mon souvenir à l'époque, mais en tous les cas, elle m'a profondément marqué et je la remercie. Qu'elle en soit remerciée.
Eh bien, j'espère qu'elle nous écoute. Rebecca Zlotowski, moi, en écoutant, bien sûr, cette élégie, j'ai pensé aussi à cette enfance où donc vous avez fait beaucoup de musique, vous avez évoqué là tout à l'heure le fait d'avoir été élevée seule par votre père. Est-ce que pratiquer la musique a pu être une consolation?
Je pense que c'est un mode de vie, donc consolatoire pour ceux qui l'écoutent et ceux qui la pratiquent. C'est aussi une manière de remplir un lieu et de le remplir d'une manière radieuse, acceptable et d'en sortir un peu victorieux de l'absence. Mmh. Je vois bien que pour toute personne qui a été confrontée à la disparition un peu précoce de ses parents, on a un peu le sentiment d'être plongé dans le silence et puis la musique doit remplir sa bonne vieille promesse.
Thank you.
Le Lento Allegro Molto du concerto en mi mineur opus 85 de Elgar, interprété par l'Orchestre de Philadelphie sous la direction de Daniel Barenboim, et c'est Jacqueline Dupré qui interprète au violoncelle. C'est étonnant parce qu'on dirait presque de la guitare à certains moments dans le début.
Ou de l'alto.
Oui, ou l'alto, c'est le pouce à mon avis. Qui...
Ah bah la guitare c'est quand elle est en pizz. Voilà. Attention, j'ai fait quelques années de violoncelle, j'aimerais bien que ça se sache. Quand elle est en pizzicati. l'alto c'est quand elle y met... Je sais pas, le pouce, on a l'impression que c'est très haut, donc du coup, elle rejoint quasiment l'alto.
Ouais, ouais. Vous avez, une passion pour Jacqueline Dupré. En tout cas, c'est une interprète qui compte pour vous, en tant que violoncelliste, j'imagine.
Vous avez compris. Bah, j'avais un imaginaire limité au piano, au violoncelle, affectivement. C'est-à-dire que mon émotion me porte immédiatement vers ces répertoires-là. Et dans les figures mémorables, légendaires des violoncellistes, on a le choix entre des personnages très austères, à tendance russe, extraordinairement techniques, parce qu'il y a vraiment une tradition de la technique au violoncelle, et puis une figure lyrique, tragique, d'une beauté foudroyante, foudroyée d'ailleurs très jeune. Et j'ai le souvenir, très jeune, d'avoir été touchée par le destin brisé de Jacqueline Dupré. Mmh. Et alors voilà, sa grande beauté, il y a quelque chose d'un peu... à nouveau sensuel hein, aussi chez une femme et un homme qui joue du violoncelle. On écarte les jambes, on y place l'instrument. Bon, c'était d'ailleurs, je crois, dans les années, je crois qu'au 19e siècle, ça devait être, il fallait jouer vraiment comme en Amazone pour une femme. Mmh. Les femmes avaient l'habitude de jouer du violoncelle, les jambes fermées.
Pour éviter d'écarter les jambes. Ouais.
Pour éviter d'écarter les jambes, ce qui était indécent. Donc voilà, donc Jacqueline Dupré, il y avait une part comme ça, fiévreuse, romantique. Pour ceux qui connaissent pas son destin, il est tragique puisqu'elle est morte très jeune, à 42 ans.
Ouais.
Je crois d'une sclérose en plaques. Mmh. Elle a eu des attaques, des poussées assez tôt, alors que c'était l'une des interprètes les plus brillantes mondialement.
Et qui l'ont contrainte à cesser de jouer.
À cesser de jouer assez tôt, dans les années 70. Elle a enseigné, mais le couple qu'elle formait, légendaire avec Barenboim, a quand même fabriqué des enregistrements et des concerts de légende pendant des années.
Ils le disent, hein, d'ailleurs, c'est une rencontre musicale, amoureuse et musicale. Alors justement, vous étiez donc violoncelliste. Là, on parle de l'adolescence à peu près, Rebecca Zlotowski.
Oui. En fait, je voulais jouer de la trompette, moi.
Ah, c'est vrai,
ouais.
Pourquoi alors le violoncelle?
Parce que j'étais trop petite pour jouer de la trompette quand j'en ai fait le souhait. Ma sœur jouait du piano, vous avez compris. Moi, je rentre au conservatoire, j'avais peut-être 6 ans. Et c'était trop tôt pour les lèvres d'une petite fille, je sais pas, pour la dentition, je sais pas ce qu'on m'a dit. Ouais, peut-être c'était tout
la
simplement.
La dentition aussi, sans doute.
Ou alors c'était tout simplement pour protéger nos voisins. Hein. On peut y penser, parce que peut-être qu'on m'a menti. Mais donc voilà, assez rapidement, on m'a dit pas de trompette, mais du violoncelle. Donc c'était de 6 ans à 17, 18 ans, ouais.
Et l'adolescente que vous étiez se nourrissait de ces histoires-là. Enfin, vous écoutiez quoi comme musique? Disons que vous pratiquiez cette musique par-dessus la jambe. Vous le disiez tout à l'heure, puisque vous avez voulu donner vos excuses à votre prof de violoncelle. Mais néanmoins, est-ce que c'était présent ou il y avait une scission entre ce monde du conservatoire et puis l'autre monde de l'adolescence?
Une totale scission. C'est-à-dire que la musique classique, c'était et la beauté qui pouvait susciter des émotions très très certaines chez moi, mais ça restait le monde aussi parentale, scolaire, une culture autorisée. Moi, j'écoutais ce qu'on écoutait dans les années 90 avec mes copains.
Pas ça du tout, donc.
Thank you.
Shani Di Luca interprète la mélodie hongroise pour piano en si mineur de Schubert. C'est un souvenir triple, alors, Rebecca Zlotowski, parce que, non, en fait, c'est un souvenir lié au cinéma.
Oui, c'est ça.
Non, mais vous disiez, j'allais ma sœur jouait ça.
Ah oui, non, parce que disons que j'essaie de corriger un peu le côté plan-plan de la musique classique était pas la culture classique était pas scolaire, c'était comme une bande son familiale, domestique, voilà. Ouais. Et notamment parce que vraiment du matin au soir, ma sœur jouait ce répertoire de pianiste, y compris du Schubert. Alors Schubert, ça a été une révélation. J'ai hésité quand vous me parliez de, vous m'avez demandé dans le petit questionnaire avant quel est votre compositeur de chevet. Ça pourrait être Schubert, évidemment. C'est-à-dire que c'est le plus complet entre le quintet, son utilisation des cordes, autant que la totale sensibilité au piano. J'avoue que Schubert est celui qui parle le plus à mon cœur d'ex-adolescente. Je sais pas ce que j'ai vécu sur du Schubert, mais j'ai dû vivre quelque chose parce que ça me bouleverse. Et là, c'est un souvenir qui est riche, donc parce qu'il a été joué dans mon enfance. Il a quand même accompagné la bande-son. Donc, c'était la bande-son de mon enfance. Mais ensuite, ça a été la bande-son d'un film que j'aimais beaucoup qui s'appelle La Discrète. Je ne sais pas si certains ou certaines s'en souviennent, qui est un très beau film de Christian Vincent.
Ouais, avec Fabrice Lucchini.
Fabrice Lucchini.
Maurice Garrel.
Exactement. Ouais. Maurice Garrel, qui est en éditeur de La Rue de Médicis, qui donne un. Et Judith Henry. Et Judith Henry. Très, très belle actrice dont la peau est inoubliable. Son interprétation dans cette. Et ça accompagne, c'est vraiment une antienne qui accompagne le film. Et c'est. Il y a quelques mois, quand j'ai terminé mon dernier film, Une fille facile, il a fallu penser à la musique. Enfin, j'y avais pensé même avant. Vous évoquiez Rob, qui est mon compositeur historique, vraiment celui avec qui je travaille pour chacun de mes projets, y compris la série des Sauvages. C'est un compositeur qui est précieux parce que c'est comme un co-scénariste, si bien que je lui donne les scénarios quasiment en amont pour que ça commence à le faire rêver. Mais pour ce dernier projet, je savais que ça devrait être de la musique classique mondiale que tout le monde connaissait, pouvait avoir déjà dans le cœur. Et il se trouve que cette mélodie hongroise, qui appartenait déjà à un film, donc c'était risqué de la reprendre, je pouvais pas m'en passer. Voilà.
Ah oui. Elle venait, enfin, elle s'est imposée à vous, alors?
Elle s'est imposée dès la prépa, et puis, je savais que je cherchais un équivalent parce que j'avais pas envie de voler une bande-annonce aussi, un score, une musique de film aussi identifiable. Mmh. Mais en vérité, je me suis rendu compte qu'on pouvait y faire écho, le citer, et puis l'utiliser d'une autre manière. Le sujet du film, le dernier, était tellement contemporain, les corps eux-mêmes étaient tellement contemporains, parce que il y avait cette actrice, Zaya Dehar, qui a un corps un peu trafiqué, très instagrammé quasiment déjà, et avec un physique insensé qui correspond pas du tout à une vision classique des corps bourgeois d'actrices qu'on filme d'habitude dans un certain cinéma, qui serait le mien, le cinéma d'auteur français. Et si bien que c'était très important qu'il y ait un contrepoint musical classique pour ancrer le film du côté de la légende et pas dans le consommable, quoi.
Alors précisément, Rebecca Zlotowski, on n'en a pas parlé pour le moment, mais le rapport au cinéma, ça date de l'enfance. Enfin, on sent que ça vous accompagne depuis longtemps.
Je pense comme toutes les personnes qui en font. Disons que c'est pas forcément depuis longtemps, ça n'a pas été une vocation, mais je vois, en repensant à la musique, c'est vrai que les champs de la représentation qui m'ont ouvert sont ceux qui étaient visuels, sont ceux qui suscitaient des images. Et d'une certaine manière, si on est tellement ému quand on réécoute les morceaux comme là, aujourd'hui, vous m'offrez la possibilité d'être ému et peut-être impudique de parler beaucoup. On parle beaucoup de soi, en fait, quand on parle de musique.
C'est le principe.
Peut-être encore plus que des images VHS de son enfance. Vous voyez que c'est comme des vidéos un peu familiales. Eh ben, c'est que ça crée des images, ça ouvre le champ des images.
La danse des sauvages des Indes galantes de Rameau, interprétée par l'orchestre Les Siècles, sous la direction de François-Xavier Roth, Rebecca Zlotowski, c'était obligatoire de le passer, puisque...
C'est un tube.
Et ouais, c'est un tube, et puis vous avez appelé la série qui est passée sur Canal+, à l'automne dernier, vous l'avez appelée Les Sauvages, et alors, j'ai besoin de savoir comment ça s'est imposé, mais les Indes galantes sont là, présentes.
Alors, Rameau, alors d'abord, je ne l'ai pas appelé comme ça seul, j'ai adapté le roman de Sabine Ouattara, qui s'appelait Les Sauvages, et qui est une saga en 4 tomes assez passionnante, foisonnante, géniale. J'ai eu la chance de coécrire avec Sabri Louata, qui vient de publier un nouveau roman, 404, qui est génial. J'en profite pour le saluer parce que j'ai adoré son dernier roman. Et c'était vraiment son idée d'associer ce nouveau récit français, ce nouveau roman français, dont tous les personnages et quasi exclusivement sont d'origine algérienne, à Rameau et le Grand Siècle, quoi, avec donc cette chaconne des Indes galantes qui s'appelle Les Sauvages. Il y avait beaucoup de sens, évidemment, pour déconstruire un peu l'imaginaire qui se fait autour de familles immigrées de culture algérienne en France. Donc c'était une pique de Sabri Louata envers les préjugés, les stéréotypes. Et la série a pris ce titre-là. Et ça nous a donné, pour Rob et moi, l'évidence, quand il a fallu penser la musique de la série, que ce thème devait être le thème décliné absolument dans toute la série. D'abord parce que c'est un hit total. On sent qu'en termes et de rythme et d'impact, il est inoubliable. On le sifflote quand on sort de sa douche. En tous les cas, on s'en souvient très très bien. Et que ça avait évidemment beaucoup de sens du point de vue narratif. Si bien que Rob, avec son compositeur, son arrangeur Moritz Reich, qui malgré son nom a moins de 25 ans, ils ont énormément travaillé à déployer, on va dire, ce thème en fonction des personnages. Et puis... en utilisant ce qu'ils savent très très bien faire, ce que Rob sait très bien faire, c'est-à-dire sa sensibilité à l'image, et puis en même temps sa force totale de narration en fonction des personnages, quoi.
Et pourquoi travailler avec lui en particulier ? Il y a une affinité musicale, ouais.
Je pense que ça part évidemment d'une affinité musicale et culturelle. Rob, c'est aussi le membre d'un groupe de pop qui s'appelle Phoenix. Il les suit en tournée, il est au clavier, et il fait partie d'un monde qui était le mien, qui était de ma génération, et culturellement proche, et musicalement proche. Il avait été édité par Jean-René Etienne chez Institut, qui était un label de musique électronique auquel j'étais très liée à la fin des années 90, début des années 2000. Ça y est, on commence à être vieux. Et donc ça a fait partie d'une culture commune, d'un imaginaire commun, et puis un rapport très très précis à l'image, mais on a débuté ensemble, puisque Belle Épine était son premier long en tant que musicien, compositeur de musique de film, ou son deuxième juste après Jimmy Rivière, réalisé par Teddy Lucie Modeste, que j'avais coécrit, donc on était un peu dans la même famille. Il est marié aussi à une réalisatrice qui était à la Fémis avec moi, qui s'appelle Maria Larrea, qui quand même faisait des comédies drôles à la Fémis, je précise drôles, qui était donc notable, et qui est une très grande réalisatrice que j'aime beaucoup. Donc voilà, il y avait un côté familial, un imaginaire commun, un rapport à la pop culture et en même temps au plaisir de la composition. Mais par exemple, il travaille avec Moritz parce que il vient de cette génération qui est issue du sampling, de l'échantillonnage et aussi de la mélodie instinctive et pas de la culture classique. Donc nos deux cultures se mêlaient bien et dialoguaient bien.
Et se complètent aussi. Hein.
Totalement.
Journée internationale des droits des femmes sur France Musique.
Pour poursuivre hein, sur Les Sauvages, Rebecca Zlotowski, Les Sauvages pour lequel vous venez de recevoir le prix...
De la meilleure série française par le syndicat de la critique.
Merci Rebecca Zlotowski.
C'est pas facile à dire.
C'est
alors
pas
comme moi,
à
je
dire.
Suis fière de l'avoir reçu, je le connais par cœur.
C'est un très beau prix. Donc, c'est un sujet qui était pas simple à aborder. Vous dites que vous avez coécrit avec Sabri Louata, puisque vous avez adapté son roman. C'était un sujet même très délicat. Le sujet des Algériens en France aujourd'hui.
Des Français de culture algérienne,
ouais,
d'origine algérienne et de cette cohabitation de soi à soi, de cette sensation qu'ont beaucoup de Français de ne pas appartenir à leur pays, d'avoir un fort problème d'identité. Oui, il y avait beaucoup de coups à prendre et je pense que c'était nécessaire de l'écrire, de suivre d'abord les pas de ce grand roman qui était le roman de Sabri, et ensuite de fictionner, de fantasmer les destins des personnages à nouveau en sa présence. J'étais pas non plus étrangère à ce sujet, parce que je crois que on est tous sensibles à l'idée de chercher une place.
Daniel Beniamini interprète avec l'Orchestre Philharmonique d'Israël sous la direction de Zubin Mehta la marche des pèlerins chantant la prière du soir, donc pour alto et orchestre, d'Hector Berlioz. Berlioz disait de cette marche des pèlerins « Je voulus faire de l'alto en le plaçant au milieu des poétiques souvenirs que m'avaient laissés mes pérégrinations dans les Abruzzes, une sorte de rêveur mélancolique dans le genre du Harold Byron. De là, le titre de la symphonie, c'est extraordinaire. Oui. On sent ce promeneur mélancolique, mais qui va bien globalement.
Oui, il est en forme. Il a l'air. C'est drôle parce que j'avais pas du tout corrélé l'émotion que suscite ce, notamment ce dernier passage, ce dernier mouvement, à l'alto, quasi solo, enfin dans une formation plus restreinte. Enfin, je l'avais pas corrélé au récit, ni à Harold en Italie, ni à une image qui serait une image de à la Chateaubriand, d'un voyage en Italie. Enfin, là, c'est Byron, évidemment. Donc deux choses sur ce passage. La première, c'est que j'ai un souvenir très précis d'un enregistrement. Alors, est-ce que c'était le matos qui me donnait accès de manière très précise, très piquée à la musique et qui m'a saisi, qui m'a donné une émotion et qui m'a rappelé de la musique électronique? J'ai eu l'impression que cet alto, quand il est joué, là, il était un peu plus lento, mais quand il y va vraiment,
cette phrase qui se répète,
cette phrase, c'est totalement, ça peut être vraiment comme l'origine d'une musique électronique, d'une boucle de musique électronique. Et quand j'ai demandé, j'ai évidemment choisi ce passage pour Camira Khazar, qui interprète une chef d'orchestre dans les Sauvages, dirige une répétition impartiale de ça avec un altiste. Et j'ai demandé ce passage-là, cette phrase-là. J'ai évidemment jamais retrouvé la sensation que j'avais eue, mais ça en a créé une autre et qui est un passage enregistré d'ailleurs à la Maison de la Radio et qui est dans les Sauvages pour ceux qui veulent le voir.
Donc, disponible en ligne.
En ligne, online.
Online. Rebecca Zlotowski, donc vous le disiez, vous n'avez pas voulu enseigner, vous avez bifurqué pour continuer les études à la FEMIS, devenir scénariste. Comment vous en êtes venue à la réalisation? Il y a quand même un pas à franchir.
Il y a c'est le pas de la confiance d'un producteur, donc c'est tellement banal que j'ose. Enfin, c'est pas que c'est banal, c'est que c'est beaucoup de chance et. C'est une sorte de il y a quelqu'un qui a eu confiance avant moi, voilà, et qui était un tout jeune producteur. Je parlais de Rob tout à l'heure, qui est le compositeur avec qui on a fait notre quasi premier film, le producteur aussi. Donc on était une bonne bande de bras cassés au début, mais on s'est fait la main au fur et à mesure de nos films. Et puis ce producteur s'appelle Frédéric Jouve, il a lu mon diplôme de fin d'études à la FEMIS et il m'a dit: ce scénario m'intéresse, par contre il n'a aucun intérêt pour quelqu'un d'autre, mais et si tu le réalisais? Et il m'a convaincu de le réaliser, parce que dramaturgiquement le scénario n'avait pas d'intérêt. Donc ça m'a donné l'idée de le faire. Il a pas fallu me convaincre trop longtemps, parce que c'était un champ d'expression qui était tellement privilégié, total, que c'était séduisant. Et puis je le faisais avec un peu de naïveté et inconscience à l'époque. J'avais pas encore 30 ans. Et du coup, j'ai fait un premier long métrage et ça m'a amené à en faire d'autres. Mais c'est comme ça que ça s'est fait.
Et c'est cette naïveté qui permet peut-être d'offrir un point de vue nouveau, c'est-à-dire de poser sa caméra ailleurs, autrement.
De poser ça. Non, alors je dirais plutôt non, au contraire, c'est que la naïveté nous amène à la terreur de mal faire, la terreur nous amène à la sur préparation et au travail. Moi, je crois au travail et je crois à la curiosité qui nous amène à décrypter les images des cinéastes qui nous ont plu, à lire, à connaître intimement son sujet avec modestie, en se disant qu'on va chercher un sujet qui est pas trop loin de nous au début, et si bien qu'on a une intention, une idée d'où mettre la caméra. Mais c'est un débat long, passionnant et vertigineux.
L'histoire d'une émancipation, finalement, aussi.
Peut-être. Thank you.
Emma Hoy, Tsege Mariam Gebru, qui interprète donc ce Young Girl's Complaint. Elle est compositrice et interprète de ce titre. Rebecca Zlotowski, c'est assez exceptionnel quand on pense qu'elle est encore vivante, qu'elle est éthiopienne, que c'est une nonne.
Nonne, ça fait beaucoup d'éléments de fiction géniaux.
Oui, et puis par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a joué du piano, qui a interprété les grands compositeurs et qui, à un moment, a su s'en émanciper et composer des titres comme celui qu'on vient d'entendre.
Mais qui sont, enfin mélodiquement, je trouve que c'est d'une profondeur, d'une mélancolie, mais ouverte et optimiste, je sais pas, c'est vraiment l'une des révélations pour moi des 2-3 dernières années. Je l'écoute beaucoup. Je pense qu'il faut vraiment le porter au crédit de certains éditeurs qui nous donnent accès dans la collection éthiopique.
Ce label, ouais.
Ce label qui est quand même... Moi, je suis reconnaissante, comme au cinéma, envers Roni Chama pour Carlotta. Alors, ça, pour les cinéphiles, sont des rééditions de films auxquels on n'avait pas accès. Là, pareil, je me dis... voilà, donc on est vraiment... Moi, je leur suis reconnaissante. Mmh. Je le découvre de deux manières. On m'en parle une première fois, c'est mon superviseur musical, qui a un métier méconnu, mais très précieux, qui s'appelle Frédéric Jinka, qu'on peut solliciter quand on a besoin d'être nourri, d'avoir quand notre culture elle est arrivée au bout, quand on est à sec, quand on n'a pas assez d'imagination ou de savoir là-dessus.
Il va faire des propositions.
Il fait des propositions. D'accord. Il propose des compositeurs méconnus. Donc voilà, ça, c'est un métier qui est un peu génial et c'est des puits de science en général comme Jean Calais. Et aussi, c'est mon algorithme Spotify qui me l'avait proposé, ce que je trouve assez génial. Mmh. Parce que, à un moment, on peut aussi sortir victorieux de ces algorithmes-là et essayer d'obtenir le meilleur de toutes les façons, puisque c'est des débats d'arrière-garde. Ça fait partie de nos vies. Évidemment, ça nous propose des choses qu'on aime déjà, alors il y a une limite, mais bon, pourquoi pas, c'est comme aller dans un bar où on sait qu'on va rencontrer des gens qui boivent la même bière, ou je sais pas pourquoi j'ai cette allusion d'alcoolique, alors qu'en plus je ne bois pas du tout de bière, mais bon voilà, il y a quelque chose d'un peu confiné, mais en tous les cas, ça ne me dérange pas de me demander ce que ça peut nous apporter. Et sa vie, on regardait tout à l'heure ensemble, pendant qu'on écoutait ce morceau, on regardait la vie spectaculaire de Emma Hoy.
Emma Hoy. Tsege
Mariam Gebru. Et qui a une vie remplie à ras-bord d'engagement de féministes, musicaux, culturels, intellectuels. Voilà, une grande figure du siècle.
L'engagement féministe, en tout cas, si c'est pas l'engagement féministe, vous êtes dans un engagement paritaire. C'est une question qui vous préoccupe.
Oui, comme je pense, on est tous traversés par cette question en ce moment. Et je dis paritaire plus que féministe, même si je suis évidemment pleinement féministe, comme beaucoup de gens autour de moi, hommes-femmes confondus. Mais paritaire parce que c'est un sujet qui concerne les hommes et les femmes. Mmh. Un peu de justice.
Ça bouge ?
Oui, je pense, oui. Et c'est lent. Mmh.
Spotify, à mon avis, vous a proposé Emma Hoy Tsege Mariam Gebru parce que dans les musiques que vous écoutez, il y a Bill Evans. Et là, on est vraiment dans des proximités musicales. What are you doing for the rest of your life? Bill Evans avec Eddie Gomez et Tony Oxley. Un enregistrement à l'ORTF, notre belle maison, qui est la maison de la radio. En 1972, un enregistrement donc parisien pour évoquer ce musicien, compositeur que vous avez beaucoup écouté.
Qu'on a envie de l'écouter toute la journée encore.
Ouais. On entend dans la sonorité qu'il y a une proximité avec ce qu'on a écouté avant, avec Emma Hoy, Tsege, Mariam Gebrou, ce rapport au piano libre.
Bah, la mélodie, l'improvisation au piano, à une phrase insouciante, détachée, mélancolique. Je pense qu'il y a vraiment un et puis amoureux. Mmh. Voilà, là, ça vraiment. Je trouve que chez Emma Hoy, il y a une introspection, il y a du souvenir, de la mémoire. Et là, chez Bill Evans, peut-être ce morceau-là maintenant, mais c'est vraiment une promesse amoureuse, quoi. C'est une balade dans la rue à Paris. Je sais pas. Ça évoque. Beaucoup de douceur, c'est très agréable à écouter quand on travaille parce que ça laisse l'esprit, je sais pas moi, c'est ce que ça me fait moi, ça m'amène vers la beauté tout en me laissant tranquille quand j'arrive pas à l'atteindre. Mmh. Donc voilà, c'est on a envie de l'épouser cet homme.
En mi-teinte. Mmh. Et vous, Rebecca Zlotowski, what are you doing for the rest of your life? Qu'est-ce que vous allez faire?
Ouais, je vais essayer. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui m'est permis d'espérer? Qu'est-ce que je peux faire? Je vais continuer à écrire. Et puis, ce qui ne sera pas jeté sera tourné. Et ensuite, on verra.
Vous êtes heureuse
en ce moment?
Ouais.
Ah ben, je suis heureuse personnellement, mais je suis inquiète. Il y a quand même de temps en temps des espèces de petits voiles. Ben, c'est sûr qu'après avoir écouté Bill Evans, on a envie de dire on est heureux. Et puis, la musique nous rend heureux. Mais faut écouter les pointes, les tensions d'inquiétude qu'on peut avoir, qui nous font relier des points... invisible pour l'instant ou plus visible pour d'autres et qui... Voilà, il faut être vigilant, dans une espèce de vigilance combative.
On va se quitter avec un autre compositeur proche, en tout cas Bill Evans l'a beaucoup joué et s'en est beaucoup inspiré. Pour se quitter, c'est le compositeur avec lequel on a ouvert cette émission, Rebecca Zlotowski, c'est Claude Debussy. On parle des inquiétudes, on va écouter Les Jardins sous la pluie. Pour évoquer parmi les inquiétudes le changement climatique, par exemple.
Peut-être, entre autres. Ce qui est beau dans Jardin sous la pluie, c'est que c'est écrit net et vif.
Et c'est interprété par Cédric Tiberghien. Merci beaucoup d'être venu. Et
merci
à vous. Belle continuation à vous.
Merci beaucoup. Thank you.
Jardin sous la pluie, des estampes de Claude Debussy pour terminer cette émission en compagnie de Rebecca Zlotowski, qui était donc l'invitée de Musique et moi. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant cette émission sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et moi, avec les références des œuvres diffusées ce matin. Merci à Alain Joubert qui était à la prise de son, Sophie Pichon réalisation, attachée de production Marie Ferdinand. On se retrouve dimanche prochain à 11h. D'ici là, une très belle semaine à vous tous et à dimanche.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.